Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en mars de l'année dernière à Alès, dans le Gard. Elle a paru dans un journal en ligne nommé Objectif Gard, sous le titre « Son linge n'est pas lavé, il frappe sa mère et ses sœurs ». Le jeune homme a 19 ans. Apparemment, ce jour-là, il a envie de porter des vêtements que sa mère n'a pas eu le temps de laver. Il commence par s'énerver contre elle en brandissant un couteau avant de retourner sa violence contre ses sœurs qui essaient de s'interposer. Il les frappe et les gifle à tel point qu'elles sont déclarées incapables de travailler pendant 4 jours. Le jeune homme est interpellé un peu plus tard par une patrouille de police dans les rues d'Alès et placé sous contrôle judiciaire avant d'être déféré au tribunal correctionnel pour violence volontaire avec arme. Une mesure d'éloignement de sa famille sera prononcée par le dit tribunal. Il faut dire qu'un mois auparavant, poursuit le pure player, le garçon décrit comme nerveux, c'est le moins qu'on puisse dire, avait déjà incendié le véhicule de ses parents pour un autre motif jugé dérisoire par la police. 6 mois après cette affaire, dite du linge sale, tâchant d'éviter un banal contrôle de police à Alès, le même garçon est pris en chasse par les gendarmes et remonte alors la 4 voies, la RN106, en contresens pendant plus de 10 km. La course-poursuite s'arrête seulement grâce à une herse que les gendarmes déploient dans la commune de Lédignan. Mais le fuyard s'échappe en courant, il est 2h du matin. Évidemment, ce personnage décidément nerveux n'a pas de permis de conduire. Chaque jeudi, à l'hôpital Saint-Loi de Montpellier, entre 12h et 13h15, une vingtaine de parents en détresse, dont les enfants ne sont pas allés jusque-là, heureusement, mais parfois pas loin, viennent parler de leurs problèmes pendant environ 13 séances. Le cadre est lumineux, il y a une grande bibliothèque et des pièces ouvertes. Le programme, lui, est ouvert depuis 2015 et à destination des parents uniquement. Il a été mis en place par la pédopsychiatre Nathalie Franc et ses collègues. On y apprend une méthode, on reçoit des outils, d'une pédagogie positive. Tout de suite donc, dans les pieds sur terre, quelques histoires de parents maltraités et leur groupe de parole par Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand vous êtes prêt et quand vous êtes senti dans une situation de calme, il ne faut pas arriver en agressant l'enfant parce que vous êtes à bout de nerfs. Sinon, c'est vous qui véhiculez un message violent, en fait. Même si dans les mots, ce n'est pas violent, si dans votre attitude, il y a de la colère et énormément de rancune, ça fera déclaration de guerre alors que ce n'est pas le but, quoi.
Je m'appelle Catherine Lacroix et je suis maman d'un enfant qui a maintenant 15 ans. Je suis arrivée au groupe quand Antoine avait 11 ans. Antoine était suivi à l'hôpital ici depuis un an pour des troubles de l'attention avec hyperactivité et donc il était sous traitement. Et un jour lors d'une consultation, Antoine a fait une crise devant le docteur et m'a demandé si à la maison Antoine avait des comportements violents et j'ai dit que oui effectivement. Et la question m'a beaucoup surprise parce que je ne m'étais même pas dit que ces comportements étaient violents. Ça me semblait tellement normal après tant d'années, enfin, c'est pour dire. Et donc moi j'étais dans un état vraiment fatigué de porter mon enfant à bout de bras depuis 11 ans. J'avais tout de suite vu qu'il y avait un souci avec lui. Et bien, déjà enceinte de lui, il était très très agité, il est né de manière très violente. Quand il était petit, il ne dormait pas, j'avais même pas le temps de me doucher 5 minutes. Il hurlait tout le temps, quoi. Petit, il a hurlé tout le temps. À la crèche, le personnel ne le supportait pas. Il était agressif avec les enfants. Quand il a dû aller en maternelle, il était tout content en se disant « ça sera plus comme la crèche à 3 ans ». Et puis en revenant le premier jour, il a dit « c'est nul, c'est tous des bébés ». Et ça a été terrible. Il a passé son temps puni dans les poubelles. Donc sa scolarité a été très chaotique. Je suis enseignante, donc... Comme on avait les mêmes horaires, je le récupérais et je passais mon temps à essayer de faire en sorte qu'il soit le moins mal possible. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi parce qu'en fait, avec Antoine, quoi que je fasse en pensant que ça irait mieux pour lui, en fait, il n'était jamais content. Et puis, quand il a eu 3 ans, on a fait le test de précocité et qui s'est avéré qu'il avait un très haut potentiel intellectuel. Et moi, j'ai longtemps mis tous ces problèmes sur le compte de cette précocité intellectuelle. Il a appris à lire tout seul à 5 ans et à l'école, il a appris à détester lire. Parce qu'en fait, comme il ne faisait pas beu à bas, parce qu'il savait déjà lire, il allait au coin. Et en fait, le matin, quand il partait à l'école, il me disait « J'espère que je serai au coin de droite, parce qu'au coin de gauche, je m'ennuie encore plus. » Enfin bref, donc toute sa scolarité maternelle, primaire, on n'a pas arrêté de le changer d'école. Je crois qu'il a dû faire 5 ou 6 écoles de Montpellier. On n'a pas arrêté non plus de changer de thérapeute. Au début, ça a commencé ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, rebouteux, l'eau de Lourdes. Enfin bref, quand ça a été impossible, c'était pédiatre, psychopédiatre, psychomoteur. Enfin, j'ai écumé Montpellier. Et le psychiatre qui me disait qu'Antoine était comme ça parce que je le surprotégeais, que j'avais pas d'autorité, en fait, que je savais pas me mettre en colère. Donc, évidemment, entre-temps, j'avais appris à me mettre en colère, à donner des coups de pied dans les portes et à me casser les doigts de pied. Enfin, ça avait été de mal en pis, parce que c'est là qu'Antoine, en fait, quand j'ai commencé à me mettre en colère sous les conseils d'un psychiatre très renommé, c'est là qu'Antoine a commencé à être très violent. D'abord verbalement, sale pute, grosse connasse, nique ta mère, t'es une merde, t'es une no-life. Moi, je supportais pas, je me mettais dans des colères terrible, et puis il avait toujours le don de me dire des choses qui me faisaient sortir de moi, en fait. Et moi, je marchais à fond. À la limite, je me rends compte, Antoine me disait, oui, tu vas à l'école, comme ça, tu t'occupes pas de moi. Je crois que presque c'était mon repos, c'était d'aller travailler. Et j'avais la hantise des week-ends et la hantise des vacances. C'était quelque chose d'effroyable. Et en fait, quand je suis arrivée à ce groupe de parole, j'étais totalement désespérée. Et puis, quand il était en CM1, là, on a réussi à lui trouver une école qui était internationale anglais-américain, qui est une école primaire publique. Et là, il a eu des enseignantes totalement remarquables. À chaque fois, il avait deux maîtresses. L'une était anglaise ou américaine et l'autre française, mais avait enseigné à l'étranger. Et là, en fait, en 2 ans, il est devenu totalement bilingue. Et c'était le seul francophone de sa classe à parler totalement anglais. Et en fait, je me suis dit, le problème, c'est quand même pas lui, c'est les autres, puisque là, ça marche. Enfin, à cette école, ça allait à peu près. Donc, il a, en 6e, été au collège international, Camille Claudel, qui était vraiment un très bon collège. Et là, en fait, ses résultats ont commencé à chuter terriblement. Et c'est l'infirmière du lycée qui m'a dit « Votre fils a certainement un trouble de l'attention avec hyperactivité. Si vous voulez, je peux avoir un rendez-vous pour vous rapidement avec le docteur Franck. » Et donc, on est venu consulter. Antoine a pris un traitement. Il y a une amélioration au niveau scolaire, une amélioration au niveau du comportement. Et puis très vite, donc je suis rentrée dans le groupe de parole. Tout de suite, ça m'a complètement parlé, en fait, parce que déjà, c'est très clair. Contrairement à ce que depuis 10 ans, j'avais pu entendre chez les psychiatres, repérer pour ne pas se mettre en colère, repérer qu'on va se mordre la langue, là, pour ne pas répondre, se dire ça, ok, mais je cède pas, mais je dis rien, et on en parle plus tard, mais ça se passera comme je veux moi et pas comme il veut lui. Enfin, en fait, si on y réfléchit, c'est une méthode, mais hyper simple, je veux dire, il n'y a que du bon sens, et ça m'a donné beaucoup de force, ça m'a redonné confiance en moi-même, ça m'a redonné ma légitimité d'être la mère d'Antoine, que j'avais perdue. Ce groupe m'a sauvé la vie, et peut-être celle de mon fils, en tout cas, il a sauvé notre relation à tous les deux, parce que j'en étais arrivée à le détester, et je l'aime comme il est maintenant. Pour moi, c'est une grande victoire. J'ai même fait un cadeau de la Saint-Valentin hier, j'aurais jamais cru ça possible.
Vous lui avez offert quoi ?
Alors, je lui ai offert un gâteau au chocolat avec, qui était très joli, tout rouge, avec du fruit rouge et un petit cœur par-dessus. Donc, en fait, ça a été un sauvetage parce que moi, je ne sais pas où je serai et mon fils ne sait pas où il en serait aussi.
Pour l'instant, sur les tentatives de réparation, ça va comme d'habitude. Votre acte, vous le posez, quoi qu'il arrive, vous êtes là, vous faites un acte de présence. Et après, s'il vous fait une proposition, cette proposition, tu l'as déjà faite la dernière fois, ça n'a pas marché. Soit vous demandez quelques précisions, bah, comment tu vas t'y prendre pour faire des efforts. Ok, vous trouvez que c'est acceptable, vous dites, bah, nous allons donner chance à cette proposition.
D'où après, vous venez
de Paris. Donc je fais l'aller-retour tous les jeudis donc pour venir à cette séance. Voilà, si ça avait été à Paris, je serais allée à Paris. Mais c'est à Montpellier, donc je vais à Montpellier. Donc je suis arrivée vers 10h ce matin, je reprends le train à 16h. Alors, je participe à ce groupe parce qu'on a un fils de 11 ans qui fait de nombreuses colères, qui a un comportement violent, très violent à la maison. Donc toute frustration conduit à de la violence verbale, des insultes, de la vulgarité et de la violence physique vers les objets et envers nous, envers la maman, envers le papa, envers le frère, et qui, en dehors de la maison, a un comportement tout à fait classique, normal, voire exemplaire. Et donc, pour nous, c'est une situation très dure à vivre. Et donc, on a essayé de trouver des solutions. Donc, notre fils a eu un suivi, on va dire, par un accompagnement de psychologue. Quand il a eu 7 ans, ça n'a pas marché. Parce que pour la psychologue, c'était un enfant charmant, très drôle, plein d'esprit intelligent, ce qu'il est aussi. Donc, on a eu aussi un suivi psychiatrique, donc avec un médicament. Ça n'a pas forcément donné les résultats qu'on attendait, donc il y a toujours eu beaucoup de crises, de colère et de violence, et avec une escalade récente, donc des crises de plus en plus violentes qui nous ont fait peur. Et au bout d'un moment, donc en se disant, bon, bah, pour éviter une crise, pour éviter une colère, ok, on va céder, ou on va dire que ok, c'est lui qui choisit ses repas ou son programme, ou etc. Voilà, on ne se bat plus sur un certain nombre de choses, et au bout d'un moment, on se dit, mais il s'est passé un truc là, c'est insidieux, c'est l'enfant qui gagne du terrain, et au bout d'un moment, on se dit, oulala, on n'est plus vraiment chez nous. Donc le problème dont je souffre, c'est que je n'ose pas en parler à l'extérieur, parce que c'est honteux. Ce qu'on nous renvoie souvent, c'est que le comportement de l'enfant est le résultat de l'éducation donnée par ses parents. Donc du coup, comme à l'extérieur tout se passe bien, moi j'en étais arrivée à me dire que le problème c'était nous. Et en cherchant beaucoup sur internet, je suis tombée sur ce groupe à Montpellier. On ne s'est même pas rencontrés, juste par téléphone, ils m'ont inclus au groupe qui a démarré il y a 5 semaines. Et donc le groupe est organisé de la manière suivante, on est à peu près une vingtaine de couples. Le programme est sur 13 séances, et donc là on est à la 5e, et on avance pour essayer de trouver les techniques pour désamorcer la violence à la maison, parce que ce qu'on nous a dit, et dont je suis persuadée, c'est pas l'enfant qui va s'adapter, c'est vraiment à nous de revoir vraiment l'approche qu'on a par rapport à notre enfant. Donc on avance, je suis contente et soulagée de voir qu'on n'est pas seul dans ce cas, et on va tout faire pour que les choses s'arrangent.
Je l'ai croisé dans l'ascenseur à 8h du matin, ça avait un peu crié, un peu. Hein. Elle m'a dit, c'est animé le matin, je t'enlèverai toutes ces tablettes et ces téléphones. Elle me dit, ben, j'ai dit, tu sais, si c'était ça la solution, ça fait longtemps que je l'aurais trouvé, malheureusement, voilà.
Mais là, justement, ça veut dire que vous vous êtes soumis à un jugement social à cause de son comportement, donc...
Je m'appelle Johanna, je suis la maman d'un enfant, d'un jeune adulte maintenant qui s'appelle Mathéo. Je suis arrivée dans cette salle en octobre 2015. Mon fils avait 16 ans et j'étais dans une situation familiale très compliquée avec un enfant que je n'arrivais plus à aider et que personne n'arrivait à aider. Et les psychiatres du CHU de Saint-Éloi m'ont invité à démarrer un groupe de parents qui était à l'époque le premier groupe de parents pour parler de nos difficultés, nous présenter une méthode et nous permettre de sortir de nos impasses respectives.
Oui, vous voulez dire que finalement c'est plus facile si c'est un acte fort, même violent, etc., ponctuel, que quand c'est un truc comme ça qui traîne en longueur sur la journée. Mais vous êtes plusieurs parents à avoir ce vécu d'ailleurs de harcèlement permanent, en fait, cette espèce de truc continu. Donc là, c'est vrai qu'il y a...
Alors, mon enfant a toujours été un enfant particulier, compliqué. On a passé différentes périodes difficiles. Il a été diagnostiqué TDAH, donc il est hyperactif, avec des troubles de l'attention. Ça génère beaucoup d'impulsivité, des difficultés pour gérer ses émotions. Et avec l'adolescence, il a développé également des troubles oppositionnels avec provocation. Donc il lui a attiré beaucoup d'ennuis à l'extérieur, notamment à l'école, où ça c'est plus difficile pour lui. Voilà, il cherche toujours à montrer que l'autre se trompe, à énerver la personne qui est en face de lui, avoir des difficultés à accepter l'autorité ou les règles, donc d'être toujours en train de chercher comment, où est-ce qu'elle s'arrête, à toujours les tester. C'est un enfant qui fait toujours du bruit à sa place. Il est très maladroit, donc il fait tomber ses stylos pour faire du bruit. Je pense que c'est un ensemble qui fait que c'était pas supportable pour l'enseignant. Et quand l'enseignant lui demandait d'avoir un comportement plus correct, bah, il répondait, il faisait une blague. Il donnait l'impression sans doute de se moquer d'eux. Donc ça s'est traduit par beaucoup d'exclusions. Donc alors, il a dû faire 2, 3, 4, 5, 6 collèges en 3 ans, enfin 6e, 5e, 4e, avec beaucoup de petites exclusions. Voilà, après, il ne voulait plus prendre le bus, ni le tramway, ni aller à l'école, plus bouger.
Mais l'idée, ça va être aussi effectivement de ne pas réagir, enfin d'essayer le plus possible d'être plutôt dans l'indifférence, ou en tout cas dans, et de marquer les choses. Après, c'est ce qu'on disait d'ailleurs que ça pouvait.
Petit à petit, il y a eu l'enfermement total. Et là, il se trouve que mon fils, ça faisait un an qu'il sortait plus de la maison. Donc il y a eu une période de scolarisation à domicile pendant une année, qu'il a parfaitement réussi. Le retour au lycée n'a pas fonctionné. Et il refusait tout soin. Donc quand quelqu'un devait venir, ça l'angoissait beaucoup. Donc bah, il s'enfermait dans sa chambre tout le temps où la personne était là, refusant de la voir. Parfois, il saluait, mais pas toujours. Donc quand on est parent, on ne peut pas tellement accepter que son enfant s'isole comme ça dans une petite pièce. Et après, bah, ce que ça implique, c'est qu'il n'y a plus de soins médicaux possibles. Et je me souviens d'une fois, il fallait qu'il fasse une analyse de sang. Il a fallu faire venir l'infirmière à la maison. Ben, impossible de l'amener dans un laboratoire. Tout devient complexe quand on est à la maison avec un enfant qui ne veut plus sortir du tout à l'extérieur. Si je devais le contraindre à sortir, il pouvait se montrer agressif. Il a toujours eu des crises de colère depuis qu'il est petit, où il cassait beaucoup de choses. Je ne me suis jamais sentie en danger. J'ai jamais eu peur de lui, je pense qu'il a jamais voulu me faire de mal, hein, tout simplement. Mais par contre, il était très impulsif. Et son anxiété, quand il était contraint de sortir pour aller à un repas de Noël, par exemple, en famille, là, ça pouvait prendre des proportions de violence, où il cassait tout dans la maison, où il hurlait, où il m'insultait. On avait aussi ces phases-là. Et en plus, c'est des fois tellement difficile de savoir quoi faire, et puis chacun va avoir son avis. Il y a des gens de l'entourage qui vont dire « oui, il faut être plus ferme, il faut être plus souple, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Puis après, on ne sait plus. Et au fond de moi, en tout cas, parce que dans la méthode, il y a vraiment ce rapport de non-violence. J'étais comme ça avec mon fils, mais par moments, je doutais. Donc j'étais pas forcément sûre de moi, de devoir garder le calme quand il s'énervait. Et je pense qu'on le fait pas de la même manière quand on est sûr de soi ou quand on doute de sa réponse. Et là, le groupe, ça nous a tous permis d'être sûrs de nous dans nos démarches et sans doute, du coup, d'être plus efficaces.
En fait, c'est pas toujours l'objet de leur demande qui est leur objectif,
c'est l'attention aussi.
C'est l'attention du parent.
Si je l'aime toujours.
Lui, il va chercher l'attention, il va nous harceler pour tout en fait, mais on lâchera pas forcément ce qui nous tue. Mais c'est pas pourtant qu'il s'arrêtera, il sera sympa. Ça peut durer des heures et des heures.
C'est votre fils unique ?
Oui. Oui, oui, et on était seuls tous les deux. Oui. Et le groupe m'a permis de sortir aussi du circuit fermé dans lequel on se retrouvait de fait, parce que bah, quand on a un enfant qui reste à la maison, bon, il était grand, 16 ans, mais j'ai une journée de travail qui est quand même assez longue, donc ça nécessitait que je rentre déjeuner le midi pour pas qu'il ait autant d'heures tout seul, que je me presse pour rentrer le soir, que le week-end j'évite de trop sortir. Donc on se retrouve vite dans une prison à deux. Et à devoir finalement moi aussi subir l'enfermement de mon fils avec lui. Donc Mathéo était suivi depuis plusieurs années au service des enfants et des ados de le CHU Saint-Éloi du docteur Nathalie Franck. Et ça faisait un an qu'il ne venait plus au rendez-vous, donc je m'y retrouvais seule à chaque fois. Donc j'avais eu l'occasion d'exprimer mon désarroi face à l'impossibilité de l'aider. Et c'est là qu'elle m'a proposé ce groupe. de parents, où j'ai plutôt eu le sentiment que c'était une fausse réponse à mon problème, encore une démarche que j'allais devoir affronter toute seule. Et je ne voyais pas du tout comment ça allait pouvoir aider mon fils. Pour moi, je perdais encore du temps, mais j'ai accepté de venir à ce premier rendez-vous en octobre. Mais j'avais très peu d'espoir. Et puis, le titre de ce groupe de parents était des parents avec ayant un enfant tyrannique. Et je n'y reconnaissais pas mon fils non plus. Donc, j'avais le sentiment que c'était parce que personne ne pouvait m'aider et qu'il n'y avait pas de solution. Et on me proposait des groupes et d'autres choses pour me faire patienter, je ne sais pas. Je suis quand même venue et sur ce premier groupe, chaque parent se présentait, expliquait sa situation. Enfin, en écoutant tous ces parcours, j'ai compris que j'avais ma place sur ce groupe et qu'il pourrait s'y passer quelque chose d'important.
J'avais pas su de l'extérieur d'arriver à voir. Souvent, le fait de partir et de s'extraire de la situation, c'est une vraie stratégie de résistance non violente aussi. C'est-à-dire que quand il y a des menaces, de l'agressivité, etc., alors bon, bien sûr, c'est sûr que c'est plus facile à faire avec un ado qu'avec un enfant de 5 ans, hein, parce qu'on ne peut pas forcément partir comme
là,
ça.
Là, je savais que lui, il allait s'occuper de sa soeur, du coup. Mm. Parce qu'elle est petite, quand même. Et là, j'ai rien.
Donc la première chose, je pense, c'est de sortir du secret, c'est pouvoir en parler à ses amis, sa famille, aux voisins aussi, qui peuvent entendre des scènes à la maison qui peuvent peut-être les impressionner, mal interpréter. Donc pouvoir leur expliquer ce qui se passe. C'est un petit immeuble, hein, mais j'ai pris le temps de leur écrire pour leur expliquer ce qui se passait chez moi. Alors, j'ai parlé de maladie, qu'il avait un accompagnement à l'hôpital, enfin, que c'était pris en charge, que ça pouvait se manifester par des crises de colère, par beaucoup d'agitation, qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, enfin, qu'il n'y avait pas de laxisme à la maison et qu'on y travaillait et que ça s'améliorerait. Et de leur expliquer ce qu'ils pouvaient faire qui pourrait nous aider. Voilà, parce que par exemple, mon fils, quand j'étais au travail, comme il sortait pas de la maison, il pouvait mettre la musique très fort. Donc souvent, j'avais des retours. C'est pénible, voilà, ce qui est tout à fait normal. Hein. Sauf que bon, bah, une fois que je suis pas à la maison, je peux pas gérer le volume sonore de la musique. Donc ça a été de leur dire, de ne pas forcément m'en parler à moi, mais quand ils croiseraient mon fils, ou d'aller le voir à la maison, de ne pas être dans la critique, mais de pouvoir lui dire, ah, bah, dis donc, la musique aujourd'hui, t'es en forme. Enfin, de trouver des façons de l'aborder qui permettra à mon fils d'être en contact direct avec quelqu'un et que ce ne soit pas moi le relais de la critique, on va dire, et qu'il puisse être en relation avec les voisins et mieux les connaître. Voilà. Donc c'est une étape, c'est pas facile. C'est quand même se dévoiler. Voilà. C'était libérateur de le faire. Et puis au final, ça a aussi créé des liens différents. Donc moi, je me suis forcée à faire revenir des gens à la maison, mes amis et à la famille, de redonner les contacts de mon fils et qu'il y ait des SMS, des appels, qu'il y ait une présence aussi qui s'établisse, qui s'était un petit peu étiolée avec le temps. Alors je suis sortie aussi de cette idée qu'il fallait aider mon fils, donc c'était moi, pour que dans mon quotidien ça soit plus facile, comment on pouvait m'aider. Donc ça pouvait être que de m'aider et de venir dans mon cadre de vie, si mon fils avait eu une crise et tout cassé, de nous aider à ranger, pour que lui aussi puisse voir que quelqu'un de l'extérieur allait voir. Voilà. Et c'est toujours sans critique, mais en tout cas des témoins de ces situations-là. Donc je l'ai exposé quand même, hein, et je nous ai exposé au regard extérieur.
Non,
mais vous pouvez très bien aller voir les voisins, on va dire, qui nous soutient et dire, écoutez, on a eu problème avec votre fils, il fait des crises de colère, je suis vraiment navrée, des nuisances ont engendré, et n'hésitez pas à venir nous voir, on a besoin d'aide aussi.
La seconde étape qui a été cruciale, c'est que dans la méthode, il faut faire une déclaration à son enfant, où on lui exprime son amour et ce qu'on n'accepte pas dans la relation et dans le quotidien. C'est une lettre qu'on écrit pour son enfant et qu'on va lui lire. Et ma mère était témoin. Je lui avais demandé d'être avec nous pour m'aider à ce qu'il m'écoute. Ouais. Et je lui avais donné la lettre quelques jours avant pour qu'il puisse la lire tout seul. Il avait fait comme s'il s'en moquait, mais je pense qu'il l'avait parfaitement lue. Voilà, donc dans les principes, on dit à son enfant qu'on sera toujours là pour lui et on lui dit ce qu'on n'accepte plus qui se passe à la maison. Donc, pour ma part, je lui avais dit que je n'acceptais plus qu'il m'insulte et qu'il fasse des crises de colère ou qu'il casse tout dans la maison. Et c'est la fin de la lettre, c'est ben, qu'est-ce que tu proposes pour que cette situation ne se reproduise plus ? Et l'enfant doit proposer quelque chose. Et on ne s'en va pas de la pièce tant que l'enfant n'a pas fait une proposition. Bon, évidemment, comme c'est souvent farfelu, je pense que je ne suis pas le seul à avoir une réponse un peu facile au début. Ça a déraillé une seconde fois. Donc après, il faut faire sitting dans la chambre jusqu'à ce qu'il y ait une autre proposition qui soit faite pour régler le problème. Bon, ça a généré beaucoup de crises parce que je crois qu'il a eu besoin de voir si j'allais aller au bout de ma promesse. Donc c'est vrai qu'on a eu 6 mois très, très difficiles. Mais j'ai tenu bon et je pense qu'il fallait tenir bon jusqu'à son apaisement quand il a compris qu'il pouvait compter sur moi, oui, sans doute. Le résultat, c'est qu'il n'est plus coincé dans sa chambre. Après, ça a été long. Hein. Donc, c'était en 2015, on est début 2018. Il n'a pas repris de scolarité. Enfin, il y a quand même des chemins qui sont longs à parcourir pour lui. Mais en tout cas, d'avoir des projets qui lui sont personnels, d'arriver à faire certaines démarches qu'il n'arrivait plus du tout à faire. Hein. Voilà, avec un projet d'école sur Paris l'an prochain. Enfin, ça peut paraître idiot, mais là, aujourd'hui, il a pris son rendez-vous chez le dentiste et chez l'ophtalmo et il y va demain tout seul. Il a 19 ans. Pour beaucoup de parents, c'est normal, mais pour un enfant qui a passé un an dans sa chambre, c'est une immense victoire, en fait. Là, aujourd'hui, il a repris le contrôle sur lui.
Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et des parents maltraités. Un reportage de Leïla Djikli, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci au docteur Nathalie Franc du pôle médecine psychologique pour enfants et adolescents de l'hôpital Saint-Loi de Montpellier, également auteur d'un livre accompagné les parents d'enfants tyranniques. Merci également aux parents, à Johanna, à Catherine et à Emmanuel, ainsi qu'à tous les participants du groupe, sans oublier notre stagiaire cette semaine, Yad Locherofaux, notre stagiaire quasi permanente Céline Autin et l'attachée de production des Pieds sur Terre que vous connaissez tous, Sandrine Chaperon.